Bonjour à toutes et à tous.
Alors, comme il a présenté, je m'appelle Teddy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux peut-être. Et mon épouse Alexandra. Alors, nous venons de la Guadeloupe. Et je suis ici dans le cadre, comme le pasteur l'a dit, de ma formation à l'Institut biblique de Nogent. Mon épouse a travaillé beaucoup plus que moi au sein des jeunes même. Elle a été responsable de l'ensemble des jeunes de la Guadeloupe au niveau de notre association d'église. Et moi aussi, j'ai travaillé au sein de notre église locale à Petit-Bourg avec ses ados. Des ados qui, quelque part, nous poussent à aller plus loin dans ce qu'on connaît. Et je crois que ce ministère-là, il est particulier parce que le jeune, l'ado, les enfants vous poussent à aller un peu plus loin dans votre confort, ce que vous connaissez, ce que vous pensez connaître. Et eux, ils arrivent avec ces questions qui sont un peu particulières et qui vous poussent à retourner étudier. Va ouvrir ta Bible, va chercher la réponse. Et il est aussi important de dire je ne sais pas à ces jeunes-là. Et ensuite revenir vers eux. Le titre de cet encouragement ce matin, c'est Inscrire les jeunes, Jean. Juste en bas, j'ai mis une attention particulière pour Dieu. Nous voyons que dans la parole, nous allons voir que dans la parole, Dieu accorde une attention particulière à l'instruction du jeune. Et pour lui, c'est important, quelque part même primordial. Avant d'aller plus loin, je vais prier encore, parce qu'il me faut. Éternel mon Dieu, merci pour cette grâce encore qui nous est faite en ce matin d'entendre ta parole. Je te prie encore de nous diriger, de nous conduire par ton esprit dans ce que tu veux nous dire, ce que tu veux encore nous enseigner, ou peut-être aussi ce que tu veux nous rappeler en ce matin. Pour rappeler de ne pas nous reposer sur nos acquis, mais encore de travailler et de te donner la première place qui t'est due. Éternel, nous te remercions pour cet instant qui nous est donné de proclamer ta parole. Et nous savons que tu es présent là, ta parole est annoncée. Que tu puisses nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. On va entendre souvent, et je remercie l'épouse de Sébastien, qui a dit que les jeunes ne sont pas l'église, c'est l'église d'aujourd'hui. Et souvent on entend que le jeune, c'est l'église de demain. Qu'est-ce que ça cache cette expression-là, l'église de demain? En réfléchissant un peu, je me dis, mais est-ce que c'est pas quelque chose ou une expression où on va se cacher pour se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on va faire de cette catégorie de personnes, ces jeunes qui sont parfois grincheux? Parfois, on ne sait même pas sur quel pied pouvoir les prendre parce qu'ils sont un peu, voilà, parfois insaisissables dans leur manière de faire. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes? Surtout dans l'église, et c'est une question qu'on se pose un peu partout, que ce soit dans l'église ou même dans la société. Le jeune, c'est pas simplement le problème de l'église, mais aussi c'est un problème dans la société. Et on se demande, mais souvent on se demande, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? C'est une préoccupation aussi. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Maintenant, c'est, entre guillemets, en France, on parle de taxes, etc., sur l'écologie. Et là, on se dit qu'il faut laisser une planète propre à nos enfants. Donc, il y a quelque part un héritage. On se dit qu'il y a un héritage à leur laisser. Mais pourtant, lorsqu'on regarde les faits, dans le maintenant, qu'est-ce qui est fait pour améliorer le demain de ces jeunes? Rien. Parce que l'homme a cette tendance de profiter maintenant, son tout de suite. S'il veut être riche, c'est maintenant. Alors, pour ceux qui viendront après, on verra. Alors, on peut peut-être échafauder plusieurs, peut-être plein des plans, en fait, différentes théories pour répondre à la problématique, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos jeunes? Mais ce matin, on va se pencher vers ce que Dieu, lui, l'a prévu pour nos jeunes. Dieu lui a un plan. Et parmi, dans ce plan, il donne une parole. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. On est en Proverbe 22, 6. Version de la Semeur. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en dévira pas. Un impératif collé avec quelque part une promesse. Dieu assure que si tu enseignes l'enfant dès sa jeunesse, lorsqu'il grandira, lorsqu'il sera vieux, il n'en dévira pas. Je sais que Dieu, lui, il est, comme on dit chez nous, je vais donner cette expression en créole, après je vais traduire, au debout des paroles. Un homme, il est debout derrière sa parole. La parole de Dieu, la parole de l'homme vaut l'homme. Mais la parole de Dieu vaut Dieu. Et quand l'homme pourra, lui, se défiler par rapport à ce qu'il a dit, Dieu, lui, il tiendra sa parole. Un impératif, nous avons dit. Instruis-le. Apprends-lui. Ici, on n'est pas dans le simple fait de transmettre une série de données, en fait. Fais pas ci, fais ceci. Apprends tes tables de multiplication si tu veux réussir. Il faut les connaître, hein. Mais, on n'est pas dans un système scolaire, notre système scolaire, où il faut apprendre des choses. Géographie, mathématiques, français, etc. Et gonfler son savoir. Et finalement, quand tu es à l'âge adulte, tout ce que tu as appris, peut-être tu vas t'en servir d'une petite partie. On n'est pas dans ce système d'une accumulation de données. Là, le verbe, il prend plutôt le sens de inculquer, mais surtout de former. Former le jeune. Bâtir sa personnalité. On n'est plus dans le savoir-faire, on est dans l'être. Apprends-lui à être ce que Dieu veut qu'il soit. L'instruire, c'est lui apprendre à être ce que Dieu lui-même a déjà prévu qu'il soit. Je veux aussi attirer notre attention sur l'enfant, pas les enfants. Parce que chaque enfant, il est aussi totalement unique et différent. Donc, dans l'éducation, dans notre manière de lui apporter la parole de Dieu, nous avons à, comment dire, individualiser cette éducation. La personnalité. Quand la Bible parle de personnalité, parle du cœur. La Bible emploie souvent ce mot pour parler de la personnalité d'une personne. Tu es une personne, l'individu. La Bible parle souvent de la personne, du cœur. Qu'est-ce qu'on sait du cœur? Le cœur naturel, il est tortueux par-dessus tout. Ça, c'est Jérémie qui nous le dit. La Bible aussi nous apprend que dès sa jeunesse, dès sa putain d'enfance, l'homme a cette propension au mal. Il est incliné vers le mal. Marc 7, versets 21 à 23. Je ne vais pas lire, mais il nous dit c'est au-dedans du cœur. C'est au-dedans du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Et il y a une série de qui est appuyée. Mais tout ce qui sort du cœur,
quelque part produit la mort. Paul nous dit que toutes ces choses conduisent à la mort. Et c'est au-dedans du cœur, en fait. Pas à l'extérieur, mais au-dedans du cœur. Et nous naissons avec ces intentions-là au fond de notre personnalité. Mais Dieu nous demande de faire quoi? De former. De former celui, celle, l'enfant qui est sous notre responsabilité. De lui apprendre à rejeter ces choses qui sont au fond de lui-même. Il faut pouvoir éduquer, l'instruire, chaque individu. Pas basé sur une théorie, non. Basé selon la voie qu'il doit suivre. C'est quoi la voie qu'il doit suivre? Entendu, la voie de l'Éternel. Proverbe nous parle de la voie de la sagesse. Proverbe 4, versets 11 à 13. Il dit, c'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée. Ne la rejette pas, reste-y attaché, car ta vie en dépend. Un peu plus haut, Proverbe 3, versets 17 et 18. Toujours de la sagesse. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent à elle. À ceux qui savent la garder, sont heureux. Voilà sur la voie sur laquelle il nous a intimé, exhorté à faire entrer ce jeune. Instruire ce jeune. Pouvoir le faire entrer dans la voie de la sagesse. Mais bonne nouvelle, la sagesse aussi, nous savons qu'elle s'est personnifiée en la personne de Jésus-Christ. Notre mission, pouvoir aider le jeune à suivre le Christ. Pas suivre un homme, mais à suivre le Christ, lui qui est capable de lui donner la vie. Voilà notre mission. À qui cette responsabilité? Et souvent nous le disons. S'incombe à qui de pouvoir éduquer l'enfant? Pardon? Aux parents. On l'a rappelé encore ce matin. Le parent. Et je crois que depuis l'Ancien Testament, Dieu nous parle que aux parents, en fait, de la Genèse, quand il prend Abraham, dans le Deutéronome, on voit qu'il est intimé d'instruire, de le répéter sans cesse les ordonnances de la loi. Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Le projet de Dieu. Le projet de Dieu. Dieu a sorti le peuple d'Israël en Égypte, lui donne ses lois, et là, dans son projet, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Si nous voulons que nos enfants aient un cœur transformé, il faut déjà que nous ayons ce cœur transformé nous-mêmes. Il faut que notre projet soit cohérent, en fait. Cette parole nous parle d'un projet cohérent. Dieu a un projet cohérent pour son peuple. Pourquoi cette génération ne sortira pas d'Égypte? La génération future ne sortira pas d'Égypte, mais les parents ont vu ce que l'Éternel a fait. Ils sont capables, ils sont à même de témoigner à leurs enfants ce que qui est Dieu et ce qu'il a fait. Et là, on est dans l'ancienne alliance. On a bien vu que l'ancienne alliance n'était pas possible. Israël n'a pas pu tenir un peu ferme sur toutes les clauses de l'alliance. Et il a fallu le Christ qui amène une autre alliance. La nouvelle alliance en son sang, en sa vie. Et qui fait que maintenant, pas que les juifs soient concernés, mais tous nous soyons concernés. Tous les peuples. Et maintenant, voilà le peuple de Dieu. Mais ce commandement reste valable. Tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Quand on parle encore de quand tu seras en voyage, quand tu seras sur la route. Donc, il y a quelque part cette nécessité dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de transpirer que nos vies sont transformées par Christ. Et je crois qu'un jeune, il regarde beaucoup plus ce que nous sommes que ce que nous disons. Souvent, on va dire, fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Mais avec le jeune, c'est pas trop ça. Tu vas beaucoup parler et ils vont beaucoup observer. Même ce que tu crois qui n'a pas d'importance, ils vont l'observer. Et Dieu nous invite, nos parents, à transpirer de cette vie nouvelle. Quand l'enfant nous voit passer du temps au pied de Dieu, dans la méditation, dans la parole, c'est un témoignage pour lui. Mais quand il voit aussi que nous sommes nous-mêmes malléables aux mains de Dieu, il comprend que son modèle, celui qui est son autorité, il se soumet à Dieu. Lui aussi, un jour, il va savoir que papa, maman se soumettaient à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, papa et maman m'ont toujours appris que Dieu est mon maître et mon sauveur. Jésus-Christ est mon maître et mon Seigneur et mon sauveur. Donc je me plie à ses commandements. Je lui montre cet exemple. Et maintenant, dans cette famille élargie, nous avons aussi l'Église. Nous sommes frères et sœurs. La société, on avait une nation, le peuple d'Israël, qui devait assumer cette éducation. Maintenant, on est l'Église, la famille de Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères et sœurs. Dans l'Église se manifestent différents ministères, et nous avons vu encore ce matin Maranatha, jeunesse Maranatha qui œuvre parmi la jeunesse. Nous avons encore des enseignants pasteurs, nous avons encore des docteurs, ceux qui sortent des livres, ceux qui ont étudié les jeunes, ceux qui... Enfin bref, là où se manifestent les différents dons pour enseigner. Paul disait à Timothée, dès ton enfance, tu connais les sept écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Par la foi en Jésus-Christ. Le verset suivant qui dit, car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Dans l'Église aussi est prêchée la parole de Dieu. Dans nos familles aussi, est appelé à être prêché de la parole de Dieu. Dans nos cultes personnels. Dans nos cultes familiaux. Nous sommes amenés à passer du temps, nos parents, papa, maman, et je mets bien l'ordre. Parce que souvent, maman est plus... Hein? Mais, papa, maman, à passer du temps dans la prière avec les enfants. Alors, enseigner ce que la Bible dit. Quand on arrive encore à l'église, se manifeste encore là, cette parole, cette écriture qui est là pour apprendre, réfuter, mais aussi corriger. La parole corrige aussi. Et parfois, nous avons besoin d'être corrigés. Il faut que Dieu nous redresse. Et le jeune qui est là doit pouvoir vivre en voyant cela. Comment la parole de Dieu transforme des vies. Un véritable enjeu. Là où notre société, dans l'éducation qui est faite, on pourrait laisser la place, on va dire la place à l'éducation, entre guillemets, hein, éducation nationale. Et quand on regarde toute l'idéologie, on parle de savoir, un savoir-faire, mais on veut aussi inculquer aux jeunes un savoir-être. On veut faire un citoyen modèle, un citoyen qui a une seule pensée. Et maintenant même, on veut faire un citoyen qui ne sait même plus qui il est. Il sait même plus qui il est. Il sait plus s'il est fille, s'il est garçon. Voilà. On veut faire des gens un peu robotisés qui vont suivre un peu ce que l'élite a décidé. Mais Dieu, lui, il a notre projet. Et ce projet-là, Dieu nous invite. Et c'est pour ça que nous sommes là. Dieu nous invite dans ce projet-là à le réaliser. Il pouvait le faire seul. Mais non. Il a donné la famille, il a donné cette structure à la famille, il a aussi donné cette structure à l'église. Pour témoigner au monde que Dieu est vivant et vrai. Témoigner au monde que Dieu est vivant et vrai. Ça passe par nos familles, l'engagement que nous avons. Nous ne pouvons pas laisser le jeune être influencé de l'extérieur et venir à la maison. Non. Ce qui nous a intimé ici, c'est de que le jeune soit bâti dans la maison, dans l'église, pour qu'il soit un modèle dehors. Le jeune est appelé à être un modèle dehors. Influencer son entourage. Voilà notre responsabilité en tant que parents et en tant qu'église. J'aimerais quand même toucher un mot à juste avant de finir, un mot pour les jeunes. La responsabilité des parents est de vous et d'inculquer. Aussi, la responsabilité de l'Église est d'être là à côté, inculquer, prier, s'engager à vos côtés. Mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Vous qui demandez sans cesse d'être pris comme des personnes responsables. Laisse-moi maman, je sais ce que je fais. Laisse-moi papa, je sais ce que je fais. Je vais là, mais t'occupe pas, je suis responsable. Dieu aussi voudrait être en responsable. Vous n'avez même pas besoin de lui dire. Et vous voudrez être aussi un responsable. Et pourtant, là, votre responsabilité. Proverbe 4. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui il est la source de tout ce qui fait ta vie. Gardez son cœur. Il y a une éducation qui est donnée. Il y a une formation qui est faite à la maison. Vous savez qui vous êtes. Vous savez, vous êtes en devenir. Mais vous avez la responsabilité de garder l'enseignement qui vous a été donné. De le faire devenir un socle dans votre vie. Les fondements de votre personne. Quand vous prenez des décisions. Quand on a à prendre des décisions, quand on a quand vous avez à vivre, tout simplement, il me semble. Et c'est ce que le Kohelet, l'Ecclésiaste nous dit. Réjouis-toi. Réjouis-toi. La jeunesse, elle passe. Alors, il n'est pas question pour nous, un peu plus âgés, de nous qui avons profité de vous dire de rester cloîtré dans quatre murs et de ne rien faire. Non! Dieu même ne veut pas ça. Il te dit, réjouis-toi. Mais sache que pour tout ce que tu feras, à un moment donné, il y aura des comptes à rendre. La voie qui est à suivre, on vous la présente. Et nous croyons, si nous la présentons, nous croyons qu'elle est la vraie. Nous croyons que Jésus-Christ est le véritable. Celui qui est capable de donner la vie éternelle. Mais j'ai confiance en une chose. Vous avez des choix à faire. Il est clair, nous avons des choix à faire. Mais à un moment donné, la parole de Dieu qui a été semée en vous, je le crois et on prie pour ça, grandira et fera de vous des jeunes établis en Christ. Voilà la prière de l'Église. Voilà la prière des parents. Celui qui vous parle aujourd'hui est un exemple de ce que peut faire la prière engagée d'une maman, d'une grand-mère et de l'Église. Si je suis là, je suis là que par grâce. Pourtant, j'ai grandi à l'Église. Mais de Dieu, je n'avais rien à faire. Et j'ai grandi dans l'Église. Ma grand-mère, elle a toujours semé. Elle a toujours semé. C'est formidable, quelqu'un qui ne sait pas forcément lire, mais elle a appris à lire la Bible. Et elle va... Quand je commençais à dévier, elle commençait à dire, tu n'es pas mauvais. Dieu a autre chose pour toi. Je dormais avec des couteaux sous mon oreiller. Elle passait, elle récupérait, elle dit, ce sont les mauvaises personnes qui font ce genre de trucs. Toi, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas appelé à ça. Je ne serai pas trop long sur mon témoignage. Mais une parole qui a été forte pour moi. Ou quand Dieu m'a retiré dans ma boue. J'ai une cousine avec qui on a travaillé après dans le conseil de l'église de Petit-Bourg. Sur son lit de mort. Sur son lit de mort parce qu'elle était engagée dans la prière avec mes parents, avec ma mère. L'église aussi, d'autres. Elle m'a dit, continue à tenir la main du Seigneur. De toute manière, c'est lui qui tient ta main. Mais continue, persévère dans la voie, dans cette voie-là. Parce que toi, tu sors de loin, tu sais. Tu sors de loin. On a beaucoup prié pour toi. Tu étais dans le trou. Ça m'a fait réfléchir. Je savais même pas. J'avais même pas conscience de ça. En tant que jeune, tu veux faire tes expériences. Tu veux vivre ta vie. Mais parfois, cette vie-là peut t'amener à des extrêmes. Et s'il n'y a pas l'intervention de Dieu, instruis l'enfant dès sa jeunesse. Je bénis l'Éternel parce que mes parents, malgré les erreurs, rien n'est parfait, mais malgré les erreurs, quand maman n'avait plus les mots pour moi, et qu'elle était en silence, elle priait. Et d'autres personnes dans l'église ont pris le relais. La prière de la famille, l'engagement de l'église. Et quand nous voyons nos jeunes, aidons-les. Mettons-nous à côté d'eux. À cette problématique, qu'est-ce que nous allons faire des jeunes? Je voudrais plus répondre. Nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Non, mais qu'est-ce que nous, comment on peut cheminer à côté d'eux pour qu'ils soient des hommes et des femmes bâtis en Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse.